Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. J'aime à le dire, je suis très honoré avec vous de savoir que le Saint-Esprit peut encore parler parmi nous. Il y a des églises, je le dis, où il n'y a plus, on n'entend plus la voix du Saint-Esprit. Et que Dieu nous garde, bien que ces choses soient notre partage. Encore aujourd'hui, on veut ouvrir la parole de Dieu. Est-ce que vous avez vos Bibles? Tiens, ça fait longtemps que je ne vous ai pas posé la question. Montrez-moi vos Bibles, s'il vous plaît. B-I-B-L-E, le livre de Dieu. On va l'ouvrir et je vais peut-être commencer par un petit quiz, juste d'une question. J'aimerais donc vous parler d'un personnage biblique qui s'appelait Heureux. Alors de quel personnage biblique je veux faire mention ce matin? Celui qui répond à ça, il aura plus qu'un 20 sur 20. Celui qui s'appelait Souffrance. Ah non, là je dis quelqu'un qui s'appelait Heureux. Ça n'a rien à voir avec la souffrance. Ça a plutôt à voir avec ce que nous avons chanté en premier chant tout à l'heure, jour de joie. Ça correspond à ce qu'on a entendu au travers du don spirituel. Dieu veut que nous soyons épanouis, heureux. Et pour cela, on a besoin, bien sûr, de grandir dans les voies droites du Seigneur. Alors, je vais vous le dire. J'aimerais vous parler d'Aser. Aser, c'est l'un des 12 fils du grand patriarche Jacob. Et je vous encourage à prendre avec moi le premier livre de la Bible, donc le livre de la Genèse, Genèse chapitre 30 et le verset 13. Et regardez ce qu'il est dit, Genèse chapitre 30 et le verset 13. Léa, donc l'une des épouses de Jacob, Léa dit « Que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse. » Et qu'est-ce qu'elle fit? Elle l'appela du nom d'Aser. Eh oui, Aser, c'est un nom, vous le savez, hébreu, quand on le traduit en français, ça veut dire heureux. Et il faut peut-être qu'on se rappelle qu'en ce temps-là, de nommer ses enfants, c'était quelque chose de très important. Quand on nommait un enfant nouveau-né, c'était jamais donné au hasard. Souvent, le nom correspondait à une circonstance ou à un événement qui a accompagné la naissance de tel ou tel enfant. Et parce que justement, Léa était joyeuse d'avoir entre les mains ce nouveau-né, elle l'a appelé du nom d'Aser, ce qui veut dire heureux. Et Léa, quelque part, a voulu que ce même enfant soit quelque part le premier bénéficiaire de ce nom, Aser, qui veut dire heureux. Alors imaginez-vous l'enfance de cet enfant. Aser, viens ici. Autrement dit, heureux, viens ici. Heureux, fais ceci. Heureux, fais cela. Waouh! Cet homme, cet enfant a grandi dans une atmosphère bénie et joyeuse. Vous savez que je m'appelle Joël. Et c'est aussi un nom hébreu. Est-ce que vous savez ce que veut dire Joël? L'Éternel est Dieu. Alors mes amis, toutes les fois où vous m'appelez Joël, vous êtes en train de dire, l'Éternel est Dieu. Je voudrais te parler, l'Éternel est Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais revenons à notre partage. En choisissant d'appeler son fils par ce nom-là, c'est comme si quelque part Léa désirait que la joie, que le bonheur soit quelque part ce qui va accompagner cet enfant tout au long de sa vie. Et il y a peut-être pour nous un enseignement par rapport à nos propres enfants. Je m'adresse aux parents ici dans cet auditoire. Nous avons besoin de chercher auprès de Dieu comment davantage bénir nos enfants, déjà par nos paroles. De les bénir constamment au quotidien, les valoriser, les mettre en évidence, en valeur. Et puis aussi par nos attitudes, par nos actions, par nos comportements, que nous puissions également bénir nos enfants. Mieux encore, qu'on puisse prier pour eux, mais aussi avec eux. Amen ou pas amen, frères et sœurs? Que nous puissions aussi les instruire dans les voies droites du Seigneur. Et on va les instruire, premièrement, en vivant la parole de Dieu. Ce n'est pas tant bien lire ce que dit la Bible, etc. Mais ne vous inquiétez pas, les enfants, ils voient ce que nous sommes. Ils sont comme des livres ouverts. Et nous sommes appelés à être ces Bibles ouvertes pour enseigner nos enfants que le Seigneur, quelque part, bien sûr, nous a confiés. Oui, bénissons nos enfants. Prions pour eux. Enseignons-leur les voies droites du Seigneur afin que lorsqu'ils grandiront, ils ne s'en détournent de poids. C'est d'ailleurs ce que dit la Bible, vous pouvez le lire avec moi, Proverbes chapitre 22, verset 6. « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Parce que lorsqu'on dépose la semence de la parole de Dieu dans le cœur d'un enfant, eh bien, tôt ou tard, cette semence, elle va germer. C'est Dieu qui veillera à ce que cette semence puisse eh bien, grandir et germer et aussi produire son fruit, un fruit de salut, un fruit éternel et abondant dans le cœur de nos enfants. Oui, bénissons nos enfants. Prions pour eux. Instruisons-les dans les voies droites du Seigneur, afin qu'en retour, ils deviennent à leur tour une bénédiction. Si nous les bénissons, eh bien, eux, ils sont amenés en retour, peut-être inconsciemment ou consciemment en tout cas, à bénir eh bien, les autres. Ça a été en tout cas le cas de ce jeune homme, Aser. Et je dis cela parce que justement, eh bien, son propre père, alors qu'il était quelque peu mourant, il a fait venir devant lui eh bien, ses 12 enfants et puis a commencé à prophétiser sur chacun d'entre eux. Et quand il arrivait eh bien, sur Aser, regardez ce que ce papa dit eh bien, à l'égard de son fils. Bien sûr, inspiré par le Saint-Esprit, il va dire dans Genèse chapitre 49 et le verset 20, ce que nous lisons ensemble, « Aser produit une nourriture excellente. Il fournira les mets délicats des rois. » Sous l'onction du Saint-Esprit, ce papa va prophétiser, non seulement sur Aser, mais sur toute sa descendance. Et ce n'est pas que lui seul. Il y a aussi eh bien, notre ami Moïse. Moïse aussi, eh bien, qui va prophétiser sur les 12 tribus eh bien, du peuple d'Israël, eh bien, va dire aussi, concernant Aser, la chose suivante, Deutéronome, chapitre 33, les versets 24 et 25, il arrive eh bien, sur Aser. Et pour la petite histoire, était le huitième, me semble-t-il, parmi les 12 enfants de Jacob. Sur Aser, il dit, « Béni soit Aser entre les enfants d'Israël, qu'il soit agréable à ses frères et qu'il plonge son pied dans l'huile. » Waouh ! Verset 25, « Que tes verrous soient de fer et d'airain et que ta vigueur dure autant que tes jours. » Et justement, bien, quand je lis ce passage, je voudrais qu'on puisse peut-être s'attarder sur le verset 24, le verset précédent, si tu peux le remettre pour moi, s'il te plaît. Juste sur ces deux promesses, quelque part prophétiques, eh bien, que exprime eh bien, notre ami Moïse à l'égard, à l'adresse de Aser. Il dit, Aser, qu'il soit agréable à ses frères et qu'il plonge son pied dans l'huile. Et je me dis, quelque part, eh bien, est-ce que ce n'est pas aussi ce que Dieu souhaite, désire pour chacun d'entre nous ? Que nous soyons agréables à nos frères et sœurs et que nous puissions plonger notre pied dans l'huile. Là, ça mérite explication. Et c'est sur peut-être ces deux promesses, ces deux paroles prophétiques que j'aimerais m'attarder eh bien, avec vous ce matin. Qu'il soit agréable à ses frères. Comment puis-je être agréable à mon frère, à ma sœur ? C'est pour ça que je fais la différence entre quelqu'un qui pourrait peut-être suivre les cultes comme cela, en distanciel, etc. Et puis finalement, vivre le culte, la communion fraternelle avec les frères et les sœurs. Parce que d'une manière concrète, on peut être agréable à nos frères et nos sœurs, à celui qui est à votre droite ou à votre gauche. Est-ce que vous l'avez déjà au moins regardé ? Vous avez vu quelqu'un qui s'est assis ? Vous avez peut-être senti son odeur, son parfum, je ne sais pas, mais est-ce que vous avez fait pour regarder un petit peu à droite ? Hein ? C'est lui, oui, c'est ton frère, c'est ta sœur. Parce que nous formons une famille, parce que nous chantons des choses et nous avons besoin surtout de pouvoir les vivre. Alors comment puis-je être agréable à mon frère, à ma sœur, qui est à mes côtés, qui est en face de moi, qui est derrière moi ? Alors j'ai cherché pour vous dans la Bible quelques pistes. Et j'ai pensé par exemple au jeune Samuel. Samuel était quelqu'un de spécial. La Bible nous dit qu'il ne laissait à terre aucune des paroles qui sortaient de la bouche de Dieu. Et regardez ce qu'il est dit, le concernant dans 1 Samuel chapitre 2 et le verset 26. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Waouh ! Et je me dis, mais qu'est-ce qui fait que, alors cet ami Samuel qui continue à grandir, fait aussi à côté de ça qu'il soit agréable à l'Éternel et aux hommes ? Et j'ai regardé justement dans le contexte du chapitre 2, peut-être d'autres versets qui pourraient eh bien, m'éclairer sur ça. D'un côté, la Bible nous dit « Samuel continue à grandir » et d'un autre, il nous est dit « et, conjonction de coordination, il était agréable à l'Éternel et aux hommes ». Eh bien, il faut juste remonter quelques versets un peu plus haut. 1 Samuel chapitre 2, verset 21. Et on a peut-être une explication, une réponse à cette question. Il nous est dit « lorsque l'Éternel lui visitait Anne », C'était ni plus ni moins, c'est la maman donc de Samuel. Elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Voilà la clé. Voilà comment ces 2 versets peuvent intimement être liés. Samuel continuait à grandir, et parce qu'il continuait à grandir auprès de l'Éternel, alors en retour, il pouvait être agréable à ses frères et à ses sœurs. Et cela nous parle de notre intimité, de notre communion avec Dieu. Plus je vais passer du temps avec Dieu, plus je vais me laisser transformer en sa présence, plus je vais chercher à ressembler à Marie, qui contrairement à sa sœur, qui faisait bien aussi à préparer, à bien accueillir Jésus dans sa demeure, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Elle a choisi de se mettre aux pieds du Seigneur et là, à recevoir de la part de Dieu, de la part de Jésus-Christ. Je la vois contemplative, je la vois bien peut-être bouche bée, recevant tout ce qui sortait de la bouche de Dieu. On a besoin de développer ça. Et j'ai envie de dire, excusez-moi, je ne veux pas choquer personne, mais plus que nos réunions plénières, de ces intimités que nous pouvons quelque part passer et quelque part vivre au quotidien, chaque jour. Avons-nous un lieu secret où nous pouvons échanger avec Dieu? Il ne faudrait pas qu'on ait une communion avec Dieu au travers du pasteur, au travers de notre conjoint, au travers de nos enfants ou de nos parents, mais que nous ayons une communion personnelle avec Dieu. Celle-ci se développe lorsque je me discipline dans ma vie de chaque jour à pouvoir dégager du temps et pour être en silence au pied du Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi, frères et sœurs? D'où l'importance de nous discipliner à être tout comme Marie, au pied du Seigneur, dans une position d'écoute et de contemplation. Il y a un texte qui est aussi très fort, qu'on pourrait un jour partager sous forme d'un message de Corinthiens, chapitre 3, verset 18, qui en dit long sur ce moment de qualité que nous pouvons avoir avec le Seigneur. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Et nous est rajoutée la chose suivante, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Laissez-moi vous dire une chose, plus nous passerons du temps devant le Seigneur, plus dans cette intimité, le Seigneur va nous transformer. Et ça va même se voir d'une manière physique. Notre visage sera plus serein, nous serons remplis de la présence de Dieu. Ça, c'est l'œuvre du Seigneur. Alors qu'on est là, dans l'adoration, dans la prière, mais aussi dans le silence, il y a quelque chose qui se passe, une interaction qui se produit, et le Seigneur nous transforme. Premièrement, on peut être agréable aux frères et aux sœurs au travers du fait qu'on choisisse de continuellement grandir, mais grandir auprès de notre Seigneur. Comment peut-on être agréable à nos frères? Nous pouvons être agréables aussi à nos frères à travers les paroles bienfaisantes que nous choisissons d'exprimer à travers nos bouches. On en a parlé passablement plusieurs dimanches. Regardez ce qu'il est dit dans Proverbes chapitre 16 et le verset 24. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Et je crois quelque part que si nous laissons les pensées de Christ nous animer, nous remplir, ces mêmes pensées de Christ pourront s'exprimer au travers de nos lèvres et nous serons une source de bénédiction pour ceux qui nous entourent. On va faire du bien autour de nous. Lorsqu'on va ouvrir la bouche, être une bénédiction pour nos frères et nos sœurs, tout comme l'a été le Seigneur Jésus. Pourquoi même les foules entières, des familles entières suivaient le Seigneur Jésus, même jusque dans les déserts? Tout simplement parce que ce qui sortait de la bouche du Seigneur, c'était des paroles de vie, des paroles réconfortantes, des paroles empreintes de sagesse, des paroles empreintes de guérison, des paroles pleines de douceur et de pardon. Qu'il en soit ainsi pour nous. Que nous soyons connus pour, lorsqu'on est à notre contact, il y a des paroles bienfaisantes qui sortent de nos bouches. Ah, lui, il est bien. Elle est bien. Parce que quand elle parle, c'est toujours des choses positives qui sortent de sa bouche. Amen. Comment peut-on être encore agréable à nos frères? En manifestant, évidemment, l'amour de Dieu. Mais pas celle qui se cantonne seulement à dire des paroles ou à chanter des paroles. Mais cet amour concret qui se manifeste au quotidien. Cet amour concret qui peut se définir, qui peut se manifester par des faits et des gestes. Peut-être anodine, peut-être au regard de certains, mais ô combien importante aux yeux de Dieu. lorsqu'on rend un service à un frère ou une sœur de tout notre cœur, je vous assure que c'est un parfum qui s'élève devant Dieu et qui est agréable aux yeux de Dieu, mais qui est aussi agréable à bien aux frères et aux sœurs. Parce que vous avez aidé d'une manière concrète. Parce qu'il y a une chose de dire, je suis avec toi, hein, t'inquiète pas, mais au loin. Et puis être là présent. Et peut-être même prêter une oreille qui va écouter peut-être la souffrance, l'épreuve que peut vivre une personne. Lorsqu'on est dans l'aide, lorsqu'on tend un verre d'eau à l'un de ses plus petits, la Bible dit, c'est à moi que vous l'avez fait. Et ça, c'est du concret. Le verre d'eau, il est là, dans votre main, c'est physique. Et c'est pour ça que Jean, l'apôtre Jean, a su dire dans sa première épître, 1 Jean chapitre 3, verset 18, la chose suivante, petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue. Mais comment ? En action et avec vérité. Que nous soyons une église concrète. Que des choses concrètes se fassent. Je vous assure, on peut eh bien, se réjouir par rapport à ce qui se fait eh bien, au travers de l'association culturelle CAGEF. On fait des choses concrètes. On ne va pas donner des noms, on ne va pas énumérer des choses. C'est dans la discrétion que nous le faisons. Mais Dieu le voit et Dieu nous bénit en retour. Et plus nous donnons, plus Dieu nous donne en retour. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Et d'ailleurs, la Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et quand on a compris eh bien cela, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Ne va pas me dire, mais je ne sais pas quoi faire dans l'église. On a besoin d'écouter le Saint-Esprit parce qu'il y a des choses toutes simples à faire. Et le Seigneur eh bien, est capable de nous inspirer afin que nous soyons efficaces et agréables, non seulement aux yeux de Dieu, mais aussi aux yeux de nos frères et de nos sœurs. Une autre piste encore, comment eh bien, pouvons-nous être agréables à nos frères et à nos sœurs ? Eh bien, c'est évident, tout en restant unis et en paix avec chacun de nos frères et de nos sœurs. Voilà comment encore nous pouvons être agréables. Vous connaissez ce passage, le psaume 133, qui est assez court, mais juste le verset 1, il nous est dit la chose suivante, je l'ai pris dans la version Darby, qui, pour la petite histoire, est l'une des versions les plus proches du texte originel, il nous est dit « Voici qu'il est bon et qu'il est agréable que des frères habitent unis ensemble. » Parce que habiter ou cohabiter ensemble, c'est une chose. Mais il est dit que des frères habitent unis ensemble. Sommes-nous unis ce matin ? C'est tellement important. Vous savez, si on regarde un peu plus bas dans ce même texte, je ne sais pas si tu peux, Marilyn, prendre le verset 3, par exemple. On peut même prendre tout. Il y a, me semble-t-il, que 3 versets. Voilà, le verset 3. « Comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, il est rajouté, c'est là que l'Éternel a commandé la bénédiction. C'est là que la vie est commandée également pour l'éternité. » Dans ce contexte où le peuple de Dieu est uni, où le peuple de Dieu eh bien, est entre eux, entre frères et sœurs, dans la paix, eh bien, dans ce contexte-là, le Seigneur, il envoie, il commande, il appelle la bénédiction. Il y a une grâce d'être réunis ce matin. Il y a une grâce d'être dans sa maison ce matin. Et Dieu veut bénir, nous bénir les uns les autres. Il aime quand ses enfants sont unis. Vous savez que je suis issu d'une famille de 8 enfants. Et soyons honnêtes, il y a eu des moments où ça a été la pagaille. Hein. Des bagarres à ne plus finir. Hein, il a pris ça, non, tout ça, etc. Et les parents, heureusement, ils étaient là pour départager la chose. Mais ces mêmes fratries étaient une force, un potentiel quand on était unis et quand on se concentrait pour faire une seule et même chose. Même pour faire les bêtises. Mais quand on faisait de belles choses ensemble, unis, mais c'est une force, c'est une bénédiction. Et ça, croyez-moi, le diable, il le sait très bien. C'est pour ça qu'il cherche à créer la zizanie, le trouble. Et s'il peut avoir des différences, des choses, il est là eh bien, pour attiser ces choses. Mais nous voudrions être intelligents et veiller à ce que nous soyons toujours unis les uns les autres, que nous puissions nous aimer et être dans la paix. Frère, j'aime à le dire, je me targue à le dire et j'en fais une fierté. Je suis en paix avec chacun d'entre vous et je peux balayer chacun les regards. Je n'ai pas de problème avec personne. Après, l'inverse, ça, c'est le problème de chacun. Moi, mon souci, c'est quand Jésus-Christ reviendra sur les nuées, que je puisse décoller, frères et sœurs. Et je sais que c'est aussi votre souci. C'est pour ça qu'on ne veut pas se laisser entraver par aucun piège. Je ne veux porter personne. Dans le mauvais sens du terme, vous l'avez compris. Parce que je vous porte tous dans mon cœur. Je vous aime tous dans l'amour du Seigneur. mais je ne veux porter personne dans le mauvais sens du terme, avoir eh bien, quoi que ce soit qui m'empêcherait, tel des lestes, eh bien, à décoller quand Jésus-Christ reviendra. Parce que Jésus, bientôt, mettra en lumière ceux et celles qui lui appartiennent. Il faut que la parole de Dieu soit incisive, que ce matin encore, elle puisse continuer à déranger. Je ne suis pas là pour endormir, je ne suis pas là pour bien dire ce qui va flatter l'ego. Mais je suis là pour révéler la parole de Dieu. Et je vous le dis de la part de Dieu, nous sommes agréables. Alléluia pour le frère, pour la sœur, lorsque nous veillons à être unis et en paix les uns les autres. Que Dieu soit béni. C'était le cas de l'église primitive, celle qui se trouvait à Jérusalem, l'église naissante. Ils étaient constamment dans cette communion fraternelle. Regardez ce qu'il est dit dans Actes chapitre 2, versets 46 et 47. Et là aussi, j'ai pris une autre version pour vous, la version Osterwald, excusez-moi. Et nous lisons la chose suivante, Actes chapitre 2, verset 46. « Et ils étaient tous les jours assidus au temple d'un commun accord. » Que faisaient-ils ? Ils rompaient le pain dans leur maison. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité. De cœur, là il y a une erreur, louant Dieu et étant agréable à tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'église des gens qui étaient sauvés. Waouh ! Parce qu'ils étaient unis, parce qu'ils étaient dans la communion fraternelle, parce que, eh bien, ils s'aimaient les uns les autres, mais d'une manière concrète. Eh bien, il y avait une telle impact, une telle influence que, eh bien, ils étaient agréables à tout le peuple. Les gens regardaient, mais ça, ce sont les chrétiens là. Ah oui, là-bas, quand tu rentres, il y a l'amour. Quand tu rentres, eh bien, on sent qu'ils s'aiment. C'est une véritable famille. Il y a des blancs, des blacks, des beurs. Mais j'ai l'impression qu'ils ont tous le même père. Et notre père, c'est Dieu, qui est le Dieu de la diversité. Est-ce que vous avez choisi comment vous êtes actuellement quand vous êtes né? Vous n'étiez même pas conscient que vous étiez né. Ce n'est pas nous qui choisissons la couleur. Ce n'est pas nous qui choisissons même la classe sociale ou quoi que ce soit. Ce sont aussi les circonstances de Dieu. Et puis, c'est aussi eh bien, la volonté de Dieu qui nous est créée avec eh bien, de grandes oreilles ou des petites oreilles, avec un grand nez, un petit nez, peu importe. Mais regardez la richesse. Il n'y a personne qui soit eh bien, semblable à son prochain. Nous sommes tous uniques. Et c'est pour ça que nous avons tous de la valeur aux yeux de Dieu. Que Dieu nous aide pleinement à pouvoir comprendre ces choses. Oui, lorsque l'Église vit l'amour et l'unité en son sein, le monde en est impacté. Alors que nous soyons agréables à nos frères, que nous soyons agréables à nos sœurs. Asser l'a été, un homme qui a été béni et qui a été une source de bénédiction pour les autres. Mais je note avec vous, et je vais terminer par cela, il nous est dit aussi cette autre prophétie adressée eh bien, à Asser et sa descendance, il nous est dit qu'il plonge son pied dans l'huile. Waouh, Joël, qu'est-ce que tu veux dire là? L'expression « plonger son pied dans l'huile » bien sûr est ici l'image de l'abondance, l'image de la prospérité. Et ces paroles véritablement ont été accomplies. Et je dis cela pourquoi? Parce que lorsque le peuple d'Israël a fini de conquérir le pays de Canaan, le pays promis, vous savez que ce pays a été divisé en différents territoires. Et le territoire d'Asser s'est trouvé au nord-ouest de ce pays de Canaan, et ce pays était réputé pour être très fertile, très riche en fer et aussi en d'autres minéraux. Et le territoire d'Asser convenait bien à la culture de l'olivier et était connu pour ses abondantes récoltes d'olives. Vous comprenez pourquoi Dieu a inspiré tant Jacob que également, eh bien surtout Moïse, à prophétiser sur la prospérité qu'allait produire notre ami Asser, qu'il plonge son pied dans l'huile. Et c'est vrai, eh bien que ce territoire a produit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'huile. Mais vous l'avez compris, je veux en arriver à cela sur le plan spirituel. Plonger son pied dans l'huile peut être l'image d'une marche chrétienne qui est empreinte de l'onction du Saint-Esprit. Dieu veut que nous marchions dans son esprit. Dieu veut que nous soyons remplis, imbibés, alléluia, de la présence du Saint-Esprit. Lorsque eh bien, nous plongeons nos pieds spirituellement parlant dans l'huile, eh bien, cela nous parle d'être conduits, d'être dirigés par le Saint-Esprit et ce qui nous gardera en retour de marcher par la chair. Parce que soit nous marchons par l'esprit ou soit nous marchons par la chair. Regardez ce qu'il est dit dans Galates chapitre 5, verset 16. Galates chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et alors vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Est-ce qu'il faut un séminaire pour comprendre ça? C'est dans la mesure où je vais être attentif à la voix du Saint-Esprit, dans la mesure où je vais rechercher à être continuellement rempli du Saint-Esprit, eh bien que naturellement, spirituellement et de manière glorieuse, je vais me détacher de tous les désirs de la chair. Parce que plus le Saint-Esprit va prendre eh bien, de la place dans nos vies, dans nos cœurs, plus la chair sera crucifiée et sera eh bien, diminuée au-dedans de nous, que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Lorsque nos pieds sont plongés dans l'huile du Saint-Esprit, nous sommes conduits divinement par eh bien, ce dernier. On a l'exemple de Anne. Qui connaît Anne? Anne, fille de Phanuel, la prophétesse, dans Luc chapitre 2. Pour la petite histoire, elle était aussi descendante de la tribu d'Aser. Et on constate que bien que cette Anne, quelque part, Anne, fille de Phanuel, eh bien, elle aussi avait ses pieds qui étaient plongés dans l'onction du Saint-Esprit. Parce qu'elle était poussée par le Saint-Esprit pour être au bon moment, au bon endroit, pour contempler de ses yeux la venue du Messie, du Seigneur Jésus-Christ. On peut le lire. Luc chapitre 2, versets 36 à 38. Regardez. Luc chapitre 2, versets 36 à 38. Il nous est dit, « Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve. » Donc cela nous annonce qu'à un moment donné, elle a connu un drame, une épreuve terrible dans sa vie. Restée veuve après 7 ans et âgée de 84 ans. Il n'y a pas d'âge pour servir le Seigneur. Il n'y a pas d'âge. Elle ne quittait pas le temple. On dit c'est fini, la réunion est finie. Elle était là. Et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Et ce n'est pas une exagération. C'est ce qu'elle faisait. Je ne sais pas de quelle façon, de quelle manière. Mais cette dame avait compris. Et étant survenue, elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Que nous soyons potentiellement des ânes, pas l'animal, hein. Anne, fille de Phanuel, des gens qui sont empreintes du Saint-Esprit. Des gens qui peuvent quelque part impacter eh bien, leur entourage. Quand nous plongeons notre pied dans l'huile de l'Esprit, nous sommes conduits par le Saint-Esprit dans la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Et c'est alors qu'on produit du fruit. On le fait naturellement. On le fait même eh bien, à notre insu. On est dans certaines situations et le Seigneur, parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous utilise peut-être par une parole, par un regard, par une action à bénir l'un ou l'autre. Plonger son pied dans l'huile du Saint-Esprit, c'est aussi désirer que ce dernier impacte notre témoignage chrétien. Imaginez, alors je ne l'ai pas fait ce matin, vous comprenez bien pourquoi, j'aurais pu prendre un seau d'huile et j'aurais enlevé ma chaussure et j'aurais trempé comme il le faut mon pied dans le seau d'huile et puis j'aurais commencé à marcher. Tiens même, je me serais invité chez vous et puis j'aurais commencé à marcher. Ah bien chez vous, sur votre moquette, sur votre tapis, sur... Croyez-moi, même après mon départ, j'aurais quelque part laissé quelque chose chez vous. Vous êtes d'accord avec moi? Dans le sens positif du terme, bien sûr, nous sommes appelés aussi à impacter. Parce que notre pied est trempé dans l'huile du Saint-Esprit. Parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Partout où nous allons, nous devons impacter ceux et celles qui sont à notre contact. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Que Dieu nous aide à comprendre ce que Paul a dit en retour quand il a dit « Ne vous enivrez pas de vin ». Éphésiens chapitre 5, verset 18, version Semeur. « Cela vous conduirait à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. » Et c'est la présence du Saint-Esprit en nous qui fera toute la différence. C'est la présence du Saint-Esprit qui va nous donner à être efficace et produire du fruit qui soit à la gloire de Dieu. Même mardi dernier, alors qu'on a commencé notre temps de jeûne et de prière, il y a des gens qui ont été visités par le Saint-Esprit. C'est la mesure où nous avons faim et soif de Dieu, qu'en retour le Saint-Esprit va nous remplir, car c'est son désir. Parce qu'il sait que lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on ne va pas chercher notre propre gloriole. N'utilisons jamais l'Église à bien pour se réaliser nous-mêmes ou pour nous montrer. On a besoin de ressembler à... Vous savez, il y a deux chrétiens qui sont entrés dans l'église. Il y en a un qui est venu et puis il a voulu en mettre plein la vue aux autres. Oh Dieu, il a commencé à faire une grande prière. Je te loue de ce que je ne suis pas comme... Et puis il y a celui qui est à côté. le fameux publicain qui a dit « Seigneur, aie pitié de moi, sois apaisé, cachons-nous en Jésus et que toute la gloire revienne à Dieu. » Amen, frères et sœurs. Que dire en conclusion, frères et sœurs, aspirons constamment à tremper nos pieds dans l'onction du Saint-Esprit, c'est-à-dire, on l'a compris, se laisser conduire par le Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit, afin de produire les fruits de l'Esprit en retour. Et sachons dire comme David, en son temps, il a dit, psaume 143, verset 10, puisqu'il avait réalisé l'importance d'être rempli du Saint-Esprit, d'être conduit par lui, il va dire « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. » Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Et puis, comme nous l'avons lu précédemment, soyons agréables pour les frères et les sœurs. Que nous soyons connus pour être des gens de bien. Jésus, partout où il allait, quelqu'un l'a dit dans sa prière, il faisait du bien. Que nous soyons de même semblables à Jésus. Que nous soyons agréables, non seulement aux frères et aux sœurs, mais à notre prochain, quel que soit ce qu'il est. Ça peut être notre ami, ça peut être notre ennemi. Comme j'ai déjà dit, soyons agréables, soyons des gens de bien pour ceux qui nous entourent. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses et surtout nous aide à les vivre. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cet homme, Aser, et toute sa descendance, ce qui a été prophétisé, Seigneur, sur eux. Et Seigneur, aussi ce que tu veux prophétiser, ce que tu prophétises sur nos vies. Que nous soyons des gens qui soient agréables les uns pour les autres, que nous soyons aussi de ces gens qui sont imbibés, pas seulement des pieds, mais tout notre être du Saint-Esprit, que nous soyons oints, Seigneur, que l'Église soit ointe et qu'elle puisse impacter encore sa ville, qu'elle puisse impacter son quartier. Seigneur, je t'en supplie, là où tu nous places, que nous soyons des sources de bénédiction et que nous puissions mettre en pratique ta parole. Seigneur, change-nous, Seigneur, transforme-nous, Seigneur, aide-nous à être semblables à toi. Seigneur, je te prie, Seigneur, que toujours l'unité, que toujours la paix soit notre partage, que nous puissions nous aimer les uns les autres. Toi-même, tu l'as dit, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. Seigneur, que ce soit pas que des paroles, mais que ce soit une véritable, alléluia, réalité, une véritable, alléluia, oui, vérité que nous vivons. Alléluia, parmi nous, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et s'il y avait quelques conflits, s'il y avait encore quelques difficultés, s'il y avait encore quelques entraves, s'il y avait quelques zizanies semées par l'ennemi, nous lions ces choses, nous les refoulons au nom de Jésus-Christ. Viens sanctifier ton Église. Oui, tu nous as demandé encore ce matin de creuser et de creuser, et nous voudrions encore creuser dans ta parole. Nous voulons encore creuser au-dedans de nous-mêmes et de nous dépouiller de tout ce qui n'est pas à ta gloire, afin qu'en retour, Seigneur mon Dieu, nous soyons fondés sur de solides fondements, afin qu'en retour, nous puissions grandir, comme Seigneur Père, tu nous l'as dit, et que nous puissions progresser, Seigneur Père, mon Dieu, alléluia, dans les voies, dans les desseins que tu as signés pour chacune de nos vies. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen.